Vous écoutez « On lit pour vous ».
Cap sur la Lune, un texte de Mathieu Perrault, paru le 4 janvier 2026 dans La Presse. L'exploration de la Lune connaît une renaissance depuis le début du 21e siècle, alors qu'elle avait pratiquement cessé après la rivalité américano-soviétique des années 1960 et 1970. La Chine, l'Inde et des entreprises privées américaines ont réussi des missions sur notre satellite, et ce n'est pas fini. La situation est très différente des années 1960, quand les États-Unis ont envoyé des astronautes sur la Lune, dit Kathleen Curley, du Centre pour la sécurité et les technologies émergentes, CSET, de l'Université de Georgetown, à Washington. Plusieurs pays et plusieurs firmes ont des plans lunaires. La plus grande rivalité est sino-américaine. En septembre, le Sénat américain a tenu des audiences appelées « Levée de mauvaise lune » en référence à une chanson du groupe Creedence Clearwater Revival, « Bad Moon Rising », qui lui ont permis de conclure que la Chine était en train de gagner cette course. La NASA doit lancer Artemis II, une mission qui va faire le tour de la Lune en 2026. Elle inclut l'astronaute canadien Jeremy Hansen et pourrait décoller dès février. Ensuite, Artemis III allunira et la station orbitale lunaire Gateway sera en fonction plus tard dans la décennie. L'objectif est d'avoir une base lunaire habitée au cours de la décennie 2030. Mais Elon Musk, qui a une relation d'affaires avec le nouveau patron de la NASA, le milliardaire techno Jared Isaacman, fait pression pour que la priorité soit donnée à une base martienne. De son côté, la Chine vise un allunissage de Taïkonaut d'ici 2030 et a commencé l'été dernier à tester la fusée Longue Marche 10 qui remplira cette mission. La Chine a été la première à rapporter des échantillons du pôle sud lunaire, explique Mme Curley, qui vient de publier une évaluation du programme spatial chinois. Les échéanciers du programme lunaire chinois ont été respectés jusqu'à maintenant. La Chine a lancé une dizaine de missions lunaires depuis 2007 et une exploration plus en profondeur du pôle sud de la Lune est prévue en 2026. C'est là que l'Empire du Milieu veut construire sa base avec la Russie dans les années 2030 parce qu'on y trouve de la glace essentielle à la production de carburant et d'oxygène. Sherbrooke et Toronto. Le Canada est très actif dans cette nouvelle course lunaire. Des firmes canadiennes fabriquent des instruments pour les missions lunaires privées des Américaines Firefly, Astrobotic et Intuitive Machines, prévues pour 2026, ainsi que Blue Origin, prévues en 2027. Toutes ces missions sont financées par la NASA. Firefly est la seule firme privée ayant réussi un allunissage en 2025. Le logiciel d'analyse d'images de NGC Aérospatiale de Sherbrooke s'est rendu sur la Lune en mars 2025 sur la sonde Blue Ghost de Firefly. Il pourrait être à nouveau testé sur un deuxième vol de Firefly cette année et équipera le véhicule Astromobile Rover lunaire canadien qui pourrait être lancé en 2029. Le logiciel compare les images des cratères lunaires à celles de bases de données pour guider les allunissages et les rovers en l'absence d'un système GPS, explique Jean-François Hamel, VP des systèmes spatiaux chez NGC. D'autres caméras, télescopes et microscopes canadiens, fabriqués par Canadensis de Toronto, sont utilisés par Firefly, Intuitive Machines et Astrobotic. Ce sont notamment des caméras de soutien et pour des projets de recherche scientifique lunaire, notamment l'exploration minière, précise Christian Salaberger, PDG et fondateur de Canadensis. L'entreprise a été choisie par l'Agence spatiale canadienne, ASC, pour construire le rover de 2029 et est l'une des trois qui planche sur un plus gros utilitaire de l'ASC qui pourra transporter des charges d'une tonne lorsqu'il y aura une base lunaire. Toujours dans la ville reine, MDA Space, qui a construit les bras robotiques canadiens de la navette spatiale et de la Station spatiale internationale, travaille aux bras robotiques de la station Gateway. Il devra être beaucoup plus autonome à cause du délai de transmission, dit Holly Johnson, VP robotique et espace chez MDA. Comme Gateway sera souvent inhabité, Canadarm 3 sera en quelque sorte le maître des lieux. Il devra pouvoir entrer à l'intérieur. Myriam Lemelin, une géomaticienne de l'Université de Sherbrooke, fait de son côté partie des équipes scientifiques des missions Vertex et Viper de la NASA qui iront sur la Lune en 2026 et en 2027 grâce aux sondes d'Intuitive Machine et de Blue Origin. Elle participe aussi au développement du véhicule astromobile canadien de 2029. On veut recueillir les caractéristiques de la géologie, détecter la présence de glace et mieux définir la rugosité du sol, dit-elle. Toutes ces technologies canadiennes seront utilisables sur Mars. La Lune est un environnement beaucoup plus hostile, expliquent Christian Salaberger et Holly Johnson, parce que la poussière lunaire, appelée régolithe, est extrêmement abrasive. Les ambitions de l'Inde. L'Inde a aussi un programme lunaire ambitieux visant une mission habitée à la fin des années 2030. Nous avons été les premiers à prouver la présence d'eau sur le pôle sud de la Lune en 2008, dit Gurbir Singh, un informaticien britannique qui a publié en 2017 un livre sur le programme spatial indien. Cet exploit de la mission Chandrayaan 1 a été réussi grâce à un impacteur qui a généré de la poussière, ensuite analysée par un orbiteur. La troisième mission lunaire indienne, Chandrayaan 3, a réussi en 2023 à se poser et à faire fonctionner un rover près du pôle sud. Une mission en 2027 vise à ramener sur Terre des échantillons lunaires. Nous aussi sommes en concurrence avec la Chine, mais nous n'avons pas les mêmes moyens, souligne M. Singh. La NASA souffre de manque de fonds avec les coupes de l'administration Trump. Les démocraties semblent désavantagées pour des programmes aussi ambitieux qu'envoyer des astronautes et créer des bases sur la Lune. Le Nouvel Antarctique. Bleddyn Bowen, un politologue de l'Université de Durham, en Angleterre, qui a publié deux livres d'astropolitique, confirme l'avance de la Chine. C'est important. Parce que le premier pays qui s'installera de manière durable sur la Lune aura un rôle important pour déterminer les règles, notamment le périmètre de sécurité autour des bases, note M. Bowen. Cela dit, l'implication des firmes privées donne une profondeur aux efforts lunaires américains. La Lune ne tombera jamais entre les mains des entreprises privées, selon lui. Au mieux, ce sera comme en Antarctique, des bases scientifiques, avance-t-il. et, évidemment, du tourisme pour les riches. En savoir plus, source NASA, 20, nombre d'alunissages robotiques réussis sur la Lune, 26, nombre d'alunissages réussis sur la Lune. C'était « Cap sur la Lune », un texte de Mathieu Perrault, paru le 4 janvier 2026 dans la presse.
Le baby boom des années d'après-guerre et la révolution tranquille. Un texte de Simon Langlois, paru le 8 décembre 2025 dans Le Devoir. Dans son article « Les enfants de la Révolution tranquille », Le Devoir des 29 et 30 novembre 2025, Gérard Bouchard affirme avec raison que les baby-boomers, nés entre 1945 et 1965, ont eu une vie meilleure que celle de leurs parents. Je souhaite cependant apporter deux nuances importantes à son propos et compléter son analyse fort pertinente sur la nécessité d'un regard objectif sur le destin des baby-boomers, l'une portant sur les femmes et l'autre sur la nécessité de bien distinguer deux grandes cohortes fort différentes. Le « meilleur sort » évoqué par mon collègue a certes touché les enfants des milieux populaires et ouvriers dont nous sommes issus, lui et moi, mais il a concerné les femmes de manière encore plus marquée, ce qu'il ne relève pas de manière claire. Les femmes des premières cohortes du baby-boom sont arrivées à l'âge d'entreprendre des études post-secondaires au moment de la création des cégeps et de l'avènement du réseau de l'Université du Québec qui allait leur ouvrir les portes de l'enseignement aux études avancées au même titre que leurs frères issus de milieux modestes. Ce changement est majeur. Une bonne partie des femmes nées dans l'après-guerre 1939-1945 ont connu une mobilité sociale ascendante dans la hiérarchie sociale, terme classique de la sociologie que je préfère à la notion de transfuge de classe, bien documentée qui les a distanciées de leur milieu d'origine. Mais, en plus, et il faut insister sur ce point, les femmes du baby-boom se sont aussi distanciées de leur mère sur bien des plans et non seulement de leur père. On doit en effet aux femmes du baby-boom d'avoir milité afin de fixer les nouvelles normes qui ont perduré par la suite en matière de nuptialité, y compris l'avènement du divorce devenu légal au milieu des années 1960, de fécondité et de contrôle des naissances, y compris la lutte pour l'avortement, de nouvelles normes en matière de vie amoureuse, de nouvelles normes sur le plan des relations avec les hommes. Ces femmes ont été pionnières en matière de changement dans les mœurs et les modes de vie. Je donne un exemple personnel qui illustre bien le phénomène observé sur le plan macro-sociologique. Ma grand-mère maternelle, mariée en 1919, a eu 11 enfants. Ma mère, mariée en 1946, en a eu 4, ma conjointe et moi en avons eu 2, nos deux enfants en ont eu 2 chacun, et il est à prévoir que ces derniers en auront aussi environ 2, le temps venu. On le voit, les femmes de la génération qui est la mienne, nées après la guerre de 1939-1945, ont rompu avec le passé de leur grand-mère et de leur mère, et elles ont contribué à établir de nouvelles normes sociales, désormais acquises, dont ont bénéficié les générations suivantes. Le deuxième point sur lequel j'insisterai en vue de préciser l'agenda des recherches souhaitées par Gérard Bouchard consiste à bien distinguer deux grandes cohortes fort différentes au sein des baby-boomers. Leur groupe est en effet non homogène, et il faut distinguer les premières cohortes nées entre 1945 et 1955 et les suivantes nées entre 1955 et 1965. La première fut qualifiée de « génération lyrique » par le regretté François Ricard. Ses membres ont profité de la dernière phase de prospérité des Trente Glorieuses 1945-1975 lors de leur entrée sur le marché du travail et quand ils sont arrivés à l'âge de former des couples. Leur avenir était ouvert et Ricard a su rendre compte de manière remarquable de leur destin social. Mes propres travaux sur cette période ont par ailleurs mis en lumière les différences et inégalités qui ont cependant persisté au sein de cette génération lyrique. En revanche, les baby-boomers nés après 1955 sont arrivés à l'âge de 20 ans en pleine crise économique due au choc pétrolier de 1973 qui a ébranlé l'économie mondiale. Le prix du pétrole, au cœur de l'économie occidentale et des modes de vie des individus, chauffage, auto, etc., a triplé du jour au lendemain. Imaginez ce qui se passerait si le prix actuel du litre d'essence triplait dans les prochains jours. Résultat, une importante stagnation économique qui a conduit à la grande crise de 1982, inflation dans les deux chiffres, taux hypothécaire entre 16 % et 18 % taux de chômage de 35 % chez les derniers nés du baby-boom, etc. Autant le destin de la génération lyrique avait été teinté d'optimisme, autant celui des baby-boomers qui ont suivi a été sous le sceau de l'inquiétude. Les jeunes nés après 1955 ne l'ont pas eu facile. Cela étant, une analyse que j'ai effectuée des années plus tard, parue dans l'ouvrage d'hommage offert à Guy Rocher, m'a permis d'observer que ces cohortes avaient cependant réussi à contrer plus tard dans leur cycle de vie les handicaps rencontrés dans une conjoncture difficile. Les baby-boomers ont eu la chance de profiter dès leur adolescence des acquis qu'a rapporté la Révolution tranquille, c'est indéniable, alors que leurs parents et grands-parents en ont aussi bénéficié, mais plus tard dans leur cycle de vie. Assurance hospitalisation en 1962, assurance maladie en 1970, réforme de l'aide de dernier recours en 1970, protection sociale accrue, etc. Gérard Bouchard a raison de plaider pour un regard neuf sur les baby-boomers non teintés d'idées préconçues ni d'a priori idéologique, appuyé sur des savoirs solides. Leur destin est loin d'avoir été homogène, comme le montrent les effets de génération évoqués plus haut. Les études réalisées sur ces cohortes ont mis en lumière les inégalités, les disparités sociales ainsi que de nombreuses difficultés rencontrées, tout en soulignant les aspirations non accomplies. Ces éléments seront à considérer parallèlement aux avancées qu'il faut leur attribuer. Ils ont contribué à construire le Québec moderne et ils ont été à l'origine de bien des transformations sociales dont profitent les générations contemporaines. Mais comme l'ont déjà écrit Alexis de Tocqueville et Émile Durkheim, lorsque les choses s'améliorent, on est plus sensible aux inégalités et aux aspects problématiques qui persistent. De là vient peut-être l'image parfois négative qui a été accolée aux baby-boomers. C'était le baby-boom des années d'après-guerre et la Révolution tranquille, un texte de Simon Langlois paru le 8 décembre 2025 dans Le Devoir.
Trucage de photos par l'administration Trump. Un mensonge à faire pleurer. C'est le titre d'une chronique signée Philippe Mercure et publiée dans la presse du 29 janvier 2026. Il y a mille raisons de pleurer face aux agissements de l'administration américaine depuis la deuxième élection de Donald Trump. Mais certaines larmes commandent la prudence. Il y a quelques jours, le New York Times a montré que la Maison-Blanche avait trafiqué la photo d'un événement à l'aide de l'intelligence artificielle et l'avait diffusée sur les réseaux sociaux. Cette falsification, vous le verrez, soulève une tonne de questions. Donc, jeudi dernier, sur X, la Maison-Blanche a publié la photo d'une militante, Nekima Levi Armstrong, lors de son arrestation en Minneapolis, dans la foulée des tumultes provoqués par les agents du service de l'immigration et des douanes. lycée. On la voit en larmes, le visage défait. Le hic, le même jour, toujours sur X, la secrétaire à la sécurité intérieure, Christine O'Hem, a publié la même photo. Tout est pareil, la position des protagonistes, celle des objets, mais cette fois, le visage de Mme Levi Armstrong est impassible. Grâce à des outils spécialisés, le New York Times a déduit que la photo sur laquelle on voit la prévenue en larmes avait été trafiquée par l'intelligence artificielle. La Maison-Blanche a confirmé l'altération à un reporter de CNN parlant d'un « meme », comme ces images ou vidéos virales humoristiques qui circulent sur l'Internet. Citation « L'application de la loi se poursuivra. Les mèmes continueront. » Fin de citation affirmée la Maison-Blanche dans une autre déclaration stupéfiante. La nouvelle soulève un premier choc, celui de voir un gouvernement manipuler ainsi l'information. À l'ère où l'on peine déjà à discerner le vrai du faux, les conséquences d'un tel acte sont immenses. Mais un deuxième choc survient lorsqu'on pense à ce que l'administration Trump a cherché à montrer avec ce traficotage. Elle a voulu faire croire qu'elle fait pleurer ses propres citoyens lorsqu'elle les arrête. À quoi joue la Maison-Blanche? C'est ce que j'ai tenté d'éclaircir en parlant à des experts. Citation. Le but probable est de dénigrer et d'humilier l'adversaire. Fin de citation répond David Colomb, expert en propagande et en communication, et professeur agrégé d'histoire à l'Institut d'études politiques de Paris. Simon Thibault, professeur agrégé au département de sciences politiques de l'Université de Montréal, confirme que ce cas représente un exemple de propagande, l'un de ses champs d'expertise. Citation. On est en présence d'une administration qui cherche à communiquer des messages pour convaincre, en suscitant des émotions, lesquelles vont varier selon les publics visés, dit-il. Fin de citation. Quant à savoir quel message exact veut véhiculer l'administration Trump en montrant une manifestante en larmes, l'expert ne peut que conjecturer. Citation. Préfère-t-on montrer Nekima Levi Armstrong en pleurs et en détresse plutôt qu'en maîtrise d'elle-même? Cherche-t-on à humilier? Veut-on susciter des émotions, la colère et la peur chez certains, la joie ou le sentiment de sécurité chez d'autres par cette image trafiquée? Fin de citation. M. Thibault rappelle que les stratégies de ce genre sont vieilles comme le monde. Citation. On peut penser aux illustrations ridiculisant ou humiliant la papauté diffusées par Martin Luther et les partisans de la réforme protestante, dit-il. Fin de citation. Cara Finnegan, professeure au département de communication de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, est une spécialiste de l'utilisation de la photographie à des fins de communication publique. Elle note que le président Donald Trump utilise énormément la photo, mais aussi les vidéos et les mèmes. Citation, il est très investi dans sa propre image et consacre beaucoup de temps et d'énergie à construire sa propre image politique à l'aide de stratégies visuelles, observe-t-elle. Fin de citation. L'experte en a long à dire sur le cas de Nekima Levi Armstrong. Elle soulève d'abord le fait qu'en plus de l'ajout de fausses larmes, la peau de la militante a été assombrie sur la photo truquée. Le magazine Time avait fait la même chose avec une photo de l'ex-footballeur O.J. Simpson lors de son arrestation pour meurtre en 1994. Citation, c'est du racisme, conclut la spécialiste. Et dans le cas de Nekima Levi Armstrong, il y a aussi du sexisme. Fin de citation. Autre citation, les femmes noires sont un groupe que Trump attaque régulièrement, en particulier les femmes noires actives en politique ou membres du Congrès. Il se moque d'elles, remet en cause leur légitimité. Fin de citation. Les fausses larmes, selon Mme Finnegan, servent à montrer, citation, que les tactiques de peur fonctionnent et que les gens devraient avoir peur. il y a un désir de montrer qu'on ne fait pas qu'arrêter les gens, mais qu'on les brise émotionnellement, analyse-t-elle, fin de citation. Kara Finnegan tient à souligner que la femme qui a été arrêtée à Minneapolis est une avocate connue qui a dirigé plusieurs organisations de droit civique, a organisé de nombreuses manifestations et a été arrêtée à plusieurs reprises. Citation. Ce n'est justement pas une personne qui va être traumatisée et pleurer parce qu'elle se fait arrêter, observe l'experte. Mais il y a cette façon de penser qui dit « Nous allons paraître plus forts si l'autre côté paraît faible. » Fin de citation. Pour Simon Thibault de l'Université de Montréal, le pire est sans doute la façon dont la Maison-Blanche a expliqué l'altération de la photo. Citation. « Le plus troublant dans cette mise en scène, c'est qu'on semble utiliser le prétexte de l'humour, soit les mêmes, pour relativiser le fait d'altérer une image avec l'aide de l'intelligence artificielle. » Fait-il remarquer. Fin de citation. Kara Finnegan a les mêmes observations. Ils altèrent la photo et ils appellent ça un mème. Ça soulève plusieurs questions à propos de ce qui constitue un mème et ce qui constitue de l'information. On vient brouiller encore plus les frontières. Fin de citation. Dans ce cas précis, le poteau rose a été révélé parce que les deux photos, la vraie et la fausse, ont été publiées le même jour sur deux comptes de l'administration Trump. D'autres photos ont-elles été altérées sans qu'on s'en rende compte? Citation, je l'ignore, répond Kara Finnegan. Mais le fait que vous posiez la question montre à quel point la confiance envers les institutions est atteinte. Auparavant, on présumait que ce qu'on voyait était vrai. Il faut maintenant renverser cette proposition. Fin de citation. Il est ironique et tragique de constater que Trump, qui a toujours alimenté la méfiance envers les institutions, est en train de se donner lui-même raison en mimant la crédibilité de ses institutions. On peut se consoler en pensant que la Maison-Blanche semble croire que les larmes sont un signe de faiblesse. Or, le mensonge et la manipulation sont sans doute bien plus révélateurs à cet égard. Fin de cette chronique de Philippe Mercure titrée « Un mensonge à faire pleurer » publié dans la presse du 29 janvier 2026.